Salut Smart, salut Smart, salut le peuple de Catch-up, c'est Chris qui vous parle en direct du studio de Catch-up. Et ce soir, on est avec vous pour vous parler, non pas de la WWE, mais bien pour vous parler de la nouvelle fédération en charge, la IW, pour son deuxième pay-per-view, le Fighter Fest, qui se passait dans le cadre d'un festival de gamers. Et pour m'accompagner, j'ai l'indestructible Giscal.
Indestructible en effet, comment vas-tu?
Ça va et toi?
Ça va pas mal.
T'étais chaud pour ce deuxième pay-per-view de l'AEW?
Écoute, en tant que fan de la WWE, devant l'éternel, grand amateur de catch mainstream, mais absolument pas de catch indie, j'y allais d'un pas volontaire. J'avais vu Double or Nothing, j'avais apprécié Double or Nothing, je trouvais ça très prometteur. Donc du coup, j'abordais ce deuxième pay-per-view avec un œil, en tout cas ouvert à cette nouvelle fédération et assez impatient de voir ce qu'ils étaient capables d'enchaîner derrière. Donc voilà, on va s'y attarder.
Si tu devais me donner une petite note sur le Double or Nothing, tu me dirais quoi?
Ah, écoute, je pense que j'aurais mis un bon 4 parce que j'ai trouvé que c'était c'était une belle production. Enfin, c'était une belle nuit de catch bien ficelée, bien produite avec du spectacle. J'ai globalement beaucoup aimé ce pay-per-view. J'avais bien aimé ce qu'ils avaient fait.
Yes. Bah, j'avais fait la review de Double or Nothing avec Side, il me semble, que j'avais mis la même note que toi, un 4 ou un 4,25 peut-être.
Eh ben.
Double or Nothing, c'est du passé, on est sur le présent, et le présent, c'est Fighter Fest. Donc ça se passe à Daytona Beach, et Floride, et c'est donc dans le cadre d'un festival de gamers. Alors pour le coup, mon grand âge fait que j'y connais pas grand-chose là-dessus, mais par contre je m'y connais un peu en catch, donc du coup... autant je ne me suis pas intéressé au festival, autant le pay-per-view en lui-même m'intéressait, quoi. Donc voilà, donc ça a commencé par un pré-show, on a eu 3 matchs, et on a eu un premier match de tag team entre les best friends, Chucky T et Trent Barretta, pour ceux qui connaissent un peu, et les SoCal Uncensored, sans Christopher Daniels, qui est dans la carte un peu plus loin, et avec Frankie Kazarian et Scorpio Sky, et on a les private parties qui sont Mark Quinn et Isaiah Cassidy, qui pour le coup, je ne connaissais pas trop.
Alors on a un match... Moi non plus, pas du tout.
Je ne connaissais pas non plus, ouais. Je connaissais les deux premières équipes, mais pas
les
plus grandes parties. Donc on a un match de 16 minutes, hein. On est dans le pré-show, mais on a un match de 16 minutes quand même, quoi. Et avec, pour le coup, un match assez, assez rythmé. Un bon... J'ai presque envie de dire que c'était un spot fest, quoi. Ils ont vraiment... Les SoCal et les Best Friends, ils ont vraiment sorti tout l'armada habituelle, quoi, avec les hugs. Enfin, on a eu droit à la totale, quoi, dans ce match-là, quoi. Et les Best Friends gagnent ce match et à la fin se font interpeller, on va dire ça comme ça, par les Dark Order, les Evil Uno et Stu Grayson, qui se baladent avec tout un tas de petits mignons autour d'eux, relativement agressifs quand même pour des mignons. Et voilà, le segment du match se termine comme ça, qui promet une future feud entre les Best Friends et les Dark Order. Même si les Dark Order, apparemment, ont quand même l'intention d'attaquer à peu près tout le monde dans la Tag Team Division à la IW. Donc du coup, t'en as pensé quoi de ce tout premier match
J'ai pas vu le kick-off, moi, donc du coup, je peux pas t'en parler, mais je suis... Le truc que je peux dire, c'est que j'avais beaucoup aimé, j'avais même beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé même le match des Best Friends contre comment ils s'appelaient, les deux gars fluo, là, c'était Angelico et je sais plus, à Double or Nothing, parce que j'espère que les auditeurs m'excuseront, je suis très très novice hein, dans tout ce qui sort de la WWE, mais j'avais énormément aimé le match qu'ils avaient eu à Double or Nothing, pareil pour SoCal Uncensored, je crois que c'était contre l'équipe des Japonais, là, des Strong Hearts. Là. Donc, du coup, j'imagine que ça devait être très sympa, mais je ne l'ai pas vu. Donc,
le futur que tu cherchais avec Angelico, c'était Jack Evans.
Ah, Jack Evans, ouais, Jack Evans, c'est ça.
Donc, après, on enchaîne ce pré-show. Et donc, dans ce pré-show, parce qu'on a quand même pas mal de matchs sur la carte à vous reviewer. Donc on a eu un deuxième match pré-show qui était un match féminin entre Leva Bates et Ali. Alors là, je connaissais Ali, mais absolument pas Leva Bates. Juste pour l'info, Levi Bates, elle est rentrée sur une espèce de gimmick de bibliothécaire en disant, en faisant des chutes au public comme s'ils étaient dans une bibliothèque, que là on n'était pas dans une salle de gaming, etc. Voilà, il y a eu un petit angle là-dessus qui n'était pas génial. Le combat a été assez rapide. Ali gagne le match avec un super kick. Voilà, très franchement, rien à en dire de particulier sur ce match. C'était vraiment vraiment court et sans grand intérêt. Voilà. J'enchaîne le troisième match du pré-show.
Vas-y.
C'était un hardcore match. Alors là, par contre, c'était un peu spécial parce qu'on avait Michael Nakazawa qui est un Japon. Michael Nakazawa.
C'est celui qui se fout de l'huile partout là.
Voilà, ouais, qui se met de l'huile de bébé partout. Mais par contre, qui parle un excellent anglais, ce qui est assez galé pour un lutteur japonais. Il parle un excellent anglais et il a fait une bonne promo d'ailleurs pendant le combat, etc. quoi. Et alors la petite surprise, c'est qu'il affrontait un non-catcher, puisqu'il affrontait un G. Bailey, qui était en fait l'organisateur de la Firefest, le vidéo. Voilà, c'était l'organisateur. Et en fait, si tu veux, ce match, c'était totalement un match de fan service, quoi.
D'accord.
G. Bailey était là pour se faire vraiment démolir. Et on a eu quand même un hardcore match, quoi. Donc avec tout un tas de spots un peu spéciaux, quoi. Ils se sont battus avec une manette de GameCube, tu vois, des choses comme
ah
ça.
Ah oui, d'accord. Oui. Bon, ça devait pas être pour moi, ça, mais ok.
du kendo stick, pas mal de kendo stick d'ailleurs. Et c'était c'était pas un truc extraordinaire. Jay Bailey avait dû quand même un peu bosser à l'entraînement parce qu'il a quand même réussi à porter une souplesse. Et voilà, ça. On ne peut pas très vraiment dire que c'était extraordinaire. Hein. C'était vraiment du fan service. Le public se marrait bien parce que connaissait pour le coup l'organisateur. Et donc, du coup, c'est surtout ça qui a fait le buzz. Quoi. Donc, le Japonais gagne sans surprise le match. Et derrière, on a droit à l'arrivée de Jim Ross dans la salle. Alors là, on va en parler après, mais parce que je veux absolument parler avec toi, mon bon Giscal, des commentateurs sur la IW, parce que moi, j'ai quelques soucis avec ça, quoi.
D'accord, on va parler de ça, alors.
Je sais pas si tu avais eu ce problème-là à Double or Nothing, mais en tout cas...
Ah si, à Double or Nothing, je m'étais arraché les cheveux devant les commentaires de Alex Marvin, mais qui a disparu, fort heureusement.
Oui.
Donc ça m'a beaucoup plu.
Je vois qu'on est raccord. Ça me rassure. Et donc juste avant la cloche du début du premier match, en fait, on a eu un tout petit caméo de Jon Moxley. Pour dire qu'il allait tout démolir et qu'il allait montrer ce soir qui était Jon Moxley et que bon, ça allait chier des bulles, quoi. Et pas des bulles carrées, hein, moi je vous le dis. Quoi. Et donc le show principal enchaîne. Alors, premier match, l'opener, qui m'a surpris d'ailleurs parce que je ne m'attendais pas à ça. Puisque l'opener,
ah oui, moi non plus, non.
Et donc c'est Christopher Daniels face à Sima. Voilà. Et un match assez surprenant parce que vraiment je ne m'attendais pas à ce que ça soit eux qui ouvrent le bal.
Ah bah pas du tout non plus, oui.
C'était c'était la toute première fois qu'ils s'affrontaient en un contre un. Ils s'étaient déjà croisés en tag team, mais ils ne s'étaient jamais affrontés en un contre un. Donc écoute, c'était un match pas très marquant, il n'y a pas eu de truc extraordinaire, mais les deux gars sont solides, ont leur routine et savent faire tous les deux, quoi. Et il faut rappeler que Christopher Daniels, il a 49 ans, hein, il a une shape.
Ah ouais, putain, il est en forme. Hein.
Et il est en forme, c'est fou hein, ce mec. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quel âge il va catcher. Mais si tu fais la différence entre un Goldberg ou un Undertaker face à Christopher Daniels dans le ring, bah y a rien à dire. Hein. Christopher Daniels, il est dans une forme.
Ouais, c'est pas les mêmes gabarits, mais oui, c'est sûr.
Ouais. Il est dans une forme éblouissante, quoi. Éblouissante pour son âge, quoi. Donc vraiment, il m'épate à chaque sortie, ce gars, quoi. Donc voilà. Donc Sima gagne le match.
Oui.
Et ça se passe dans une ambiance fair-play entre les deux, puisqu'ils se félicitent mutuellement à la fin du match. Alors, ton avis sur cet opener, Giscal ?
Ah, j'ai trouvé ça un peu plan-plan, moi, perso. Bon, alors voilà, hein, c'est pour nos auditeurs, hein, je reprécise encore, mais je pense que vous l'aurez compris, je suis vraiment pas du tout familier avec aucun des catcheurs dès qu'on sort de la WWE. Donc c'est vrai que je regarde ça avec un œil complètement novice. Et du coup, bah, en fait, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que c'est vrai que c'était pas vraiment un opener auquel j'étais habitué. J'ai trouvé ça un peu mou. C'est vrai que c'est deux catcheurs qui... Bon, alors écoute, Sima, il est plutôt costaud. On peut pas dire que ce soit un catcheur lent. Hein. Voilà, tu sens que c'était quand même deux vétérans, pas mal de catch au sol, d'enchaînement. Enfin, Moi, ça manquait peut-être un peu de folie pour les openers de pay-per-view dont j'ai l'habitude. C'est vrai que, par exemple, je me souviens qu'à Double or Nothing, ils avaient envoyé SCU contre Strongheart. D'ailleurs, du coup, c'est pas un hasard, parce que là, on avait deux membres des deux factions, mais ça avait envoyé un pâté pas possible. Ils avaient envoyé un gros 3v3 pour ouvrir le show. J'avais trouvé ça beaucoup plus efficace que d'ouvrir cette émission, du coup, sur Christopher Daniels contre Sima. Voilà, donc au demeurant, un match assez propre. Bon résultat, parce que c'est vrai que Sima, je crois qu'il est déjà booké pour affronter Omega au prochain show. Donc il n'y avait pas trop de suspense sur le résultat. Mais voilà, écoute, moi j'ai trouvé la prestation de Christopher Daniels impressionnante pour son âge, certes, mais c'est peut-être pas forcément ce que j'aurais vu en opener d'un show, parce que c'est vrai que moi, du coup, je commençais à ce moment-là. J'avais pas eu le kick-off avant, donc.
Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi, parce que moi-même, j'ai été surpris de l'opener. Pas ce match-là, ouais. Placé à cet endroit-là dans la carte. Donc, ça a été une petite surprise en soi, quoi. Donc, du coup, derrière, on enchaîne. Et on enchaîne avec un deuxième combat, un combat féminin, qui oppose Rio, Nyla Rose et Yuka Sakazaki. Oh, je m'en sors trop bien en japonais, moi.
Ah oui, magnifique.
Voilà, donc, écoute, en fait, ce match, c'était donc un triple threat. Et on se retrouve avec deux japonaises qui finalement font une forme d'union et se battent contre l'américaine qui est très imposante, on va dire ça comme ça.
Oui, en fait, très imposante.
Très imposante, quoi. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de rythme, que c'était. Alors, c'est un peu dommage, j'ai pas le temps là, de ce match-là.
13 minutes 15, manifestement, sur ce que j'ai.
Ah, superbe, Giscard, tu as les temps. Je les ai pas tous. Et 13 minutes 15, ouais, pas mal, quoi. Donc, du coup, hein. Et ça a été, c'était le premier match de la soirée, pré-show compris, où les premiers chances d'ici The Somme sont arrivés.
Oui.
Ce qui m'a presque surpris, parce que je trouvais que c'était un match relativement solide, mais j'en étais pas à me dire waouh, tu vois. L'alliance japonaise a quand même bien marché face à la powerhouse américaine. C'est Rio finalement qui gagne le match. Voilà, c'était pas. Il y avait pas une. Bizarrement, en fait, pendant tout le combat, il y a eu une entente entre les deux japonaises, mais par contre, à la toute fin, justement, quand Sakazaki elle vient en aide, qu'elle sort trop du ring, qu'elle gagne le match, etc., après, Rio, derrière, elle refuse de célébrer avec Sakazaki. Bon, ok. Ouais. Alors là, je t'avoue que je connaissais pas assez le background des deux catcheuses pour savoir exactement s'il y avait un historique entre elles. Donc écoute, tant pis, ça c'est fini comme ça. Donc, t'en as pensé quoi de ce premier match féminin là ?
Eh ben écoute, étrangement, j'ai adoré ce match. J'ai trouvé qu'il était vraiment extra. C'était pas loin. Non, d'ailleurs, c'était mon match préféré de la soirée, en spoilant le reste de la review. Et ça vient de quelqu'un qui n'est quand même pas très très client du catch féminin. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient fait un super boulot en fait de construction dans ce match. J'ai beaucoup aimé la prestation des deux japonaises qui ont alterné. Les moves, en fait, les alliances contre la Monster Hill et en même temps les batailles un petit peu à l'honneur, tradition japonaise et tout, l'une contre l'autre. J'ai trouvé que voilà, on n'est pas tombé dans les poncifs habituels du triple threat avec un adversaire plus costaud. Ils ont évité pas mal de clichés. Ils ont construit un match super efficace qui a vraiment bien mis en valeur les deux gentils et la méchante, parce que moi, c'est Nyla Rose aussi qui m'a vachement impressionné sur ce match. Autant je l'avais trouvé quelconque et limite cata à Double or Nothing dans le Fatal 4-Way qu'elle avait eu avec Britt Baker, Kylie Rae et Asom Kong. Là, elle m'a vachement impressionné. Et en fait, voilà, je trouvais que c'était vachement bien fichu. Avec les japonaises qui essayent de s'allier, qui essayent de faire tomber la méchante, et puis il y a Nyla Rose qui est montée en puissance pendant tout le match, qui a été de plus en plus impressionnante. Je pense notamment à son à un moment elle claque un coup de genou de la troisième corde sur Rio là qui est pendu aux cordes. Il y a eu des moves assez impressionnants physiquement et donc ouais, écoute. Ouais. De manière générale, je trouve aussi qu'ils ont fait un meilleur boulot pour développer un petit peu leur division féminine, parce qu'au niveau de leur catcheuse japonaise, parce que moi je connais pas du tout, alors je me suis un petit peu intéressé à la question pour pas non plus être complètement un débile, mais alors le style un peu joshi là, des catcheuses japonaises féminines. Là, moi, je connais pas du tout. C'est manifestement assez populaire dans la sphère indépendante. Et ce qu'ils avaient essayé de faire à Double or Nothing, là, un 3 contre 3 avec toutes les catcheuses japonaises qu'ils avaient réussi à choper, j'avais trouvé que ça servait pas trop le produit parce que bah, au final, t'avais regardé un 3v3, mais tu retenais personne en fait. Tu savais pas trop qui avait catché, tu te souvenais plus des noms. C'était un petit peu un showcase pour Aja Kong, la vétéran qui était passée par la WWE d'ailleurs, elle est aussi à une époque. Alors que là, tu vois, cette semaine, bah là, je ressors et je me dis, tiens, la petite Yuka, elle a un potentiel sympathie énorme, elle a un petit personnage qui est marrant et elle bouge bien dans le ring. Ryo aussi, elle est très costaud. Et puis, bah, Nyla Rose, là, elle a vraiment tiré son épingle du jeu en mettant en valeur sa force dans le match et en mettant en valeur ses qualités techniques, ce qu'elle n'avait pas du tout fait il y a un mois. Donc, du coup, tu sors de là et tu te dis, tiens, ces trois-là, bah, je me souviens d'elle, et puis bah, je vais peut-être les suivre pour le futur. Donc voilà, ce match m'a beaucoup plu pour ces raisons-là, et puis parce qu'il était bien construit. Et j'ai passé plutôt un bon moment, et c'est relativement rare pour moi devant du catch féminin, surtout quand il n'y a pas d'histoire. Mais là, ils ont raconté une histoire dans le ring, donc c'était bien.
Ouais, c'est surprenant, parce que je sais que t'es pas un grand fan de catch féminin, et de Ricochet. fatalement, ouais, c'est surprenant que t'aies kiffé autant ce match-là, quoi, mais... Ouais, c'était un bon match dans tous les cas de figure. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que Nyla Rose a sorti une meilleure performance qu'à Double or Nothing. Donc, je suis assez raccord là-dessus. Alors, on enchaîne avec un Fatal 4-Way. Alors là, du lourd commence à arriver, puisque dans ce Fatal 4-Way, on va avoir le number one contender, enfin, l'un des deux number one contenders au titre suprême de la AEW, en l'occurrence Hangman Page. Et il affronte ce soir MJF, Jimmy Havoc et Jungle Boy, qui va être accompagné par un ancien Lucha Underground, AAA, qui s'appelle Luchasaurus, pour ceux qui connaissent. Voilà, avec une gimmick donc de dinosaure luchador. Voilà.
Ouais.
C'est dit. Donc voilà, donc écoute, un match quand même qui s'annonçait pas mal, quoi. Je suis, moi, assez friand de MJF que je découvre.
Ouais, moi aussi, beaucoup. Ouais.
Je trouve ce gars-là hyper intéressant. Je trouve Hangman Page avec un gabarit très compatible WWE, vois-tu. Je suis même étonné que Hangman Page n'ait jamais été pisté par la WWE, mais bon, c'est un des trucs qui me surprend un peu. Mais alors après, bah, moi, j'ai trouvé ce match plutôt pas mal. Et j'ai été assez surpris par Jungle Boy, qui est, je trouve, un catcheur assez atypique. Je crois que c'est le fils de Luke Perry,
absolument, ouais, j'avais lu ça. Ouais.
C'est vrai, ça ouais. D'accord, ok. Donc c'est bien vrai, tu confirmes l'info.
Je confirme.
Voilà, et bon, Page, il faut le rendre fort. Normal, il va affronter Chris Jericho pour All Out au mois d'août. Donc Page gagne le match. Je vous fais pas un descriptif complet du match, tu pourras nous donner le minutage, mon ami Giscal, mais voilà.
Écoute, un peu moins de 11 minutes, beaucoup court que les filles.
Ouais. Donc qu'est-ce que t'en as pensé de ce Fatal 4-Way là?
Écoute, bien sans plus, j'ai été un petit peu déçu par ce match. Alors déjà, on va pas se mentir, moi certains diront que c'est d'élite sale gueule, mais moi Jungle Boy là, Jimmy Havoc, ça me sort du match direct en fait, parce que là je me demande un petit peu dans quelle fête foraine je suis tombé quand je vois une sorte d'héroïnomane gothique là qui ressemble à rien, avec des cernes sous les yeux et qui catch en collant, il a l'air d'un plouc, et Jungle Boy qui arrive sur le dos d'un mec qui se prend pour un dinosaure alors que lui-même on dirait une sorte de Tarzan passé au sèche-linge, là. C'est déjà de base, tu m'as pas, moi, quand tu me proposes un truc comme ça, je suis pas dedans. Alors certes, c'est contrebalancé par deux mecs qui, je pense, pour le coup, sont deux futures stars, parce qu'ils sont très très fous, ils sont très bons, enfin voilà, ils ont tout, et ils ont la gueule, ils ont le bagou, ils ont le move, enfin ils ont le catch. Donc Hangman Page et MJF, je suis pas du tout inquiet pour eux. Mais voilà, en fait, il y avait un déséquilibre dans ce match qui faisait que j'ai jamais vraiment trop réussi à rentrer dedans. Alors écoute, d'élite sale gueule ou pas, je sais pas, j'imagine qu'il y en a qui ont kiffé l'action. qui ont kiffé le catch, mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. Et puis il y a eu la promo juste avant qui a pas trop aidé, parce que alors c'est dommage parce qu'il est très très bon MJF au micro, il sait se faire détester, il est vraiment et c'est pas simple je pense avec le public qu'ils ont, public extrêmement smart qui voit clair dans tout, d'arriver à tirer des vrais huées, mais c'est là où justement il est très fort, hein, il est vraiment détestable. Mais je trouve que d'être obligé de descendre à faire des doigts d'honneur, faire des blagues sur la mère Caval, parce qu'il se fait dire you suck par le public, c'est de la vulgarité un peu gratos dont je me serais passé. Perso, je trouve que c'est un peu un aveu de faiblesse quand t'es un bon heel, d'être obligé de faire des trucs comme ça pour te faire huer. Je trouve que c'est pas très ça fait un peu gros beauf, un peu porc, qui je trouve qu'il vaut mieux que ça. MJF, il est vraiment très bon, il est pas obligé de faire ça, donc j'ai trouvé que la promo était un peu naze. Donc en fait, bah voilà, ça plus le match avec les deux clowns, j'ai pas vraiment accroché, quoi. Je pense que
moi en fait si tu veux c'est plutôt le in-ring qui m'a plu, je suis assez d'accord. Jimmy Havoc en particulier me sort par les trous de nez.
Putain, mais il a rien fait du match en plus. Autant Jungle Boy, il a le mérite. C'est vrai qu'il est assez surprenant athlétiquement. On peut pas se mentir. Il est, c'est rigolo, quoi. Enfin, il est relativement divertissant à regarder dans le ring. Moi, c'est juste le look, j'accroche pas. Par contre, Havoc, écoute, moi je le connais pas. Tu pourras peut-être m'en dire plus, mais pour moi, il a rien du tout. Hein.
Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi.
bon, écoute, ok.
Et je suis content que tu aies abordé l'histoire de la promo de MJF, parce que si tu veux, je savais pas si tu allais en parler, mais parce que moi, pareil, ça m'a salement déplu. Si tu veux, le problème, c'est qu'en plus, c'était con, parce que MJF, moi, je le découvre plus ou moins aussi, et je l'avais trouvé super bon à Double or Nothing.
Ah ouais, excellent.
Je l'ai trouvé bon dans le match, là, dans le Fatal 4-Way, je l'ai trouvé bon aussi, si tu veux. Mais
il a un bon catch, ouais.
Je me suis dit, merde, mais qu'est-ce qu'il vient raconter là au début du combat là. Qu'est-ce que c'est que cette promo toute pourrie là, alors qu'il nous avait fait des trucs géniaux à Double or Nothing. Et j'avais suivi un peu le truc Road to AEW là, où tu as des petits.
Moi aussi.
Je sais pas si tu suis ça, donc à quelques occasions, on le voit à MJF là-dedans, quoi. Et c'est un type qui me paraît hyper intéressant. C'est un catcheur qui me paraît.
Ah, il a un vrai charisme et il a un vrai gros potentiel de top heel, je pense, pour cette fédé. Qui est pas négligeable, et je trouve que c'est dommage. Alors est-ce que c'est une volonté, on en parlera peut-être plus tard en synthèse, parce que ça recoupe pas mal de griefs que j'ai sur cette émission. Mais est-ce que c'est une volonté aussi de la AEW peut-être de proposer un produit edgy, Attitude Era et compagnie. Moi perso, c'est vraiment pas ma came de voir un mec débarquer et sortir des insanités, des doigts d'honneur, des trucs comme ça. Alors, il y en a qui, c'est peut-être qu'ils vont écouter cette review et qui vont dire « Oui, bah, ça va, c'est bon, on est des adultes, machin, on a bien le droit, c'est pas PG, on a bien le droit de faire des trucs comme ça. » Moi, c'est pas ma conception du catch. Je considère qu'un heel, il a pas besoin d'être un énorme beau vulgaire pour se faire huer. Il peut être meilleur que ça. Et j'ai trouvé ça un peu naze, ouais.
Ouais, je peux tout à fait comprendre ton avis là-dessus. Moi, voilà, je suis assez raccord là-dessus. Je suis vieille école aussi, tu vois. Alors, à la rigueur, qu'il y a un catcheur qui fait des doigts d'honneur selon.
Ouais, ça peut arriver, ouais.
Ça peut arriver, tu vois. Et c'est un truc qui me choque pas plus que ça. Quand tu penses à Stone Cold Steve Austin, tu vois,
oui.
ça fait marrer, quoi. Mais là, ce que j'ai vraiment pas aimé, c'est, si tu veux, c'est vraiment toute la phrase sur vos mères cavalent dans les sous-sols.
Oh ouais, c'est bon.
Ça, c'était vraiment.
Ça, c'est gras, quand même, hein. Ouais.
C'était très gras, ouais. Que ça n'avait aucun intérêt. Alors, si tu veux, le seul truc, c'est que ça s'adressait à un public de gamers.
Ah oui qui lui non, mais de toute façon, il s'adapte à son public. Hein.
Voilà, le contexte a fait que je pense que... J'ai du mal à imaginer en oui un weekly ce genre de promo, tu vois.
Bah écoute, tant mieux.
C'est vrai qu'à la télé, ce genre de truc, ça passe. Là, c'était un pay-per-view, c'était dans un cadre très particulier. Je pense que c'est pour ça que ça, il a eu droit à se lâcher là-dessus. Mais ça se trouve qu'il rien ne nous dit qu'il ne s'est pas fait peut-être engueuler en rentrant au
local. Ouais, c'est vrai. Écoute, en effet, on verra, est-ce que c'est une vraie volonté ou est-ce que c'est un truc isolé, je ne sais pas. En tout cas, moi, voilà, le seul truc, j'espère que ce n'est pas une vraie volonté parce que vraiment, ce n'est pas ma came.
Ok, écoute, on verra la suite. Alors, on enchaîne avec l'un des proprios. L'un des proprios. IW. puisqu'on a notre ami Cody Rhodes, The American Nightmare, qui débarque avec sa femme, sa charmante femme, Brandi Rhodes, et qui affronte Darby Allin, que je ne connaissais pas du tout. Je préviens tout de suite, je ne connaissais pas.
Moi non plus. Ouais.
Et la stipulation du match, c'était un time limit draw. Et, enfin, ça a fini en time limit draw, excusez-moi.
Non, alors, c'est... Il faut savoir qu'il précisait à chaque fois la time limit à chaque match. Hein. C'est, il disait... Je crois que d'ailleurs, c'était tous les matchs étaient 20 minutes, sauf le main event.
Ouais, c'était ça, ouais. Mais en fait, ça, on se retrouve avec un match, alors, polémique, enfin, en tout cas, me concernant. Ah.
Je te laisse moi aussi, hein.
Poser ton truc, parce que moi, ça m'a posé beaucoup de problèmes, ce match.
Oui, moi aussi.
Déjà, il y avait... Alors déjà, j'ai eu un peu du mal à comprendre le choix de l'adversaire de Cody Rhodes. Voilà. Il sortait de Double or Nothing avec son frangin, tout ça. Il avait deux, trois trucs en cours à la AEW, justement dans les routes AEW, qui ne concernaient pas ce fameux Darby Allin qu'on n'a quasiment pas vu. Cody, il est arrivé avec un t-shirt Thronebreaker, voilà, histoire encore d'en rajouter un petit peu une caisse sur Triple H, quoi. Moi, je pense qu'il n'a pas besoin de ça, mais ça, c'est un avis personnel. Après, bon, histoire du sac mortuaire que je te pose, que je te mets un disaster kick qu'il a un peu foiré d'ailleurs. Voilà, tout ça, ça m'a pas mal de nerfs. Dans le match en lui-même, j'ai trouvé le match pas mal. Mais Darby Allin ne m'a pas fait une impression phénoménale. Et puis, j'arrive sur la fin du match. Bon, ça se termine en match nul. Et là, on a Shawn Spears qui débarque, donc l'ancien Perfect Ten, Ty Dillinger de la WWE, et qui vient agresser Cody Rhodes et qui lui porte un shot, quoi, qui lui porte un coup de chaise sur la tête et qui repart tranquille comme si rien s'était passé. Et en fait, non, il ne s'est pas rien passé puisque Cody Rhodes saigne abondamment, qu'il est gravement ouvert, qu'il est, je pense, pas loin du chaos quand même.
Et oui, je pense, oui.
La SCU, même MJF débarque pour venir à ses côtés. Là, je vais te laisser parler, Giscal, pour voir un peu ce que tu en as pensé. Mais cette fin de match, je pense, traite. Cette fin de match, elle prête à polémique parce que, très franchement, moi, en tout cas, de mon côté, c'est pas du tout passé.
Non, moi, c'est pas passé du tout non plus. Et pour être très honnête, j'ai failli. J'ai regardé finalement le main event, mais franchement, j'ai failli couper le pay-per-view et je me suis dit, bon, allez, vas-y, c'est bon, fuck, c'est pas pour moi. Je me suis trompé, c'est pas mon produit. Écoute, j'ai trouvé, il y a eu pas mal de trucs scandaleux dans ce match, mais c'est vrai que ce segment final avec le coup de chaise, pas du tout protégé à la tête, voilà, écoute, si c'est ça leur façon de se démarquer. À la AEW, à savoir faire des spots ultra dangereux et essayer de ramener des codes qui avaient disparu pour une raison ou pour une autre, juste parce que la WWE ne fait plus ça, moi je regarderai pas parce que ça m'intéresse pas de voir des mecs qui potentiellement mettent leur vie en jeu pour des conneries, parce qu'il faut savoir que des coups de chaise à la tête, ça a été arrêté pour une raison, hein. C'est pas parce que c'est pas PG, c'est pas parce que c'est nanana. C'est pour des raisons de santé évidentes. Hein. Je pense que les catcheurs, on en a marre de voir des gars finir paralysés ou en chaise roulante ou alors avec des graves problèmes de santé au cerveau ou aux colonnes vertébrales à 50 balais parce que justement, ils se sont pris des coups de chaise dans la tronche toute leur carrière. Il y a une raison pour ça et ça devrait d'ailleurs être interdit à l'échelle du business dans sa globalité, pas juste à la WWE. Donc ce coup de chaise est juste, mais c'est d'une stupidité sans nom, ça envoie un signal qui, je trouve, est débile, mais d'une débilité, mais c'est grave. Enfin, genre, moi, je trouve que c'est grave, en fait, de faire ça, parce qu'ils veulent se positionner comme la grande alternative, le futur grand concurrent, donc la fédération qui peut potentiellement titiller, d'un point de vue grand public, la WWE. Et donc, pour eux, dans leur deuxième show, depuis leur création, ils se disent, tiens, on va ramener le chair shot dans la tête, qui en plus du coup s'est très mal passé puisqu'il y a manifestement eu un botch, hein. il a quand même eu 10 agrafes dans le crâne Cody Rhodes, donc ça c'est quand même pas c'est pas neutre. Alors ouais. Manifestement il a pas eu de commotion, tant mieux pour lui, mais enfin c'est juste scandaleux de mettre ça en scène, je trouve, et moi vraiment j'ai failli couper le pay-per-view après ça. Je me suis dit, écoutez les gars, amusez-vous à faire ça si vous voulez, mais ce sera sans moi, surtout que juste avant ça il y a un truc qui est tout aussi con, mais alors ça, c'est, écoute, c'est son problème au gamin, hein, s'il a envie de potentiellement, pareil, être tétraplégique à 22 ans. Mais alors, le coffin drop sur le tablier du ring, je pense que j'ai jamais vu un spot aussi con depuis que je regarde du catch. Alors, je regarde pas beaucoup, vous me direz. Donc, il y en a pas mal qui peut-être auront vu des hardcore matchs et des trucs, du catch de garage avec ce mec-là qui fait des trucs bien pires. Mais moi, c'est pareil, en fait, j'ai pas envie d'allumer ma télé et d'avoir à chaque fois qu'il y a un mec qui monte sur un turnbuckle, le frisson de me dire le mec, ça se trouve, il va se tuer ou il va se paralyser. Parce que ce qu'il a fait, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est absolument... c'est unsafe au possible. Il se jette de la troisième corde, le dos le premier, sans amortir sur le tablier du ring, sur la tranche du ring. C'est n'importe quoi. Donc, dans un match qui ne racontait rien, c'est un spot complètement gratuit pour la gloire, pour se faire un nom, parce que, bah voilà, le mec, il a 22 ans et il affronte Cody Rhodes à la W en pay-per-view. Bah voilà, bah écoute, en fait, là, en deux spots, t'as, si la EW, c'est ça, à savoir des spots de suicidaires, de têtes brûlées et des chair shots dans la gueule, parce que ça fait plaisir au mec dans le public qui gueulait « This is awesome, this is awesome », bah écoute, ce sera sans moi. Donc vraiment, ce match m'a rendu un peu fou, et je me suis dit, mec, vous êtes vraiment des gros cons, quoi.
Ouais, bah écoute, je te comprends complètement, parce que alors là, moi j'ai alors là où je te rejoins mais à 1000% sur le principe que bah tout simplement les histoires de chair shot ça devrait être interdit dans tout le business professionnel du catch quoi. Voilà, voilà le chair shot devrait être un coup interdit dorénavant, il y a plus d'histoire, il y a pas de quoi que ce soit. Tu vois les cravates au rugby sont interdites et bah ça devrait être pareil avec les chair shot au catch quoi. Je trouve complètement hallucinant qu'en 2019 on assiste encore à des trucs comme ça.
Et oui, surtout quand tu sais les conséquences que ça peut avoir, quoi.
Puis moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que moi, je regarde pas en plus, je regarde des jeunes mecs quand ils font du catch ou des jeunes
femmes. Ouais.
Si tu veux, moi, ça m'amuse pas de voir des mecs mettre leur vie en danger. Ils mettent déjà leur vie en danger par la simple pratique du catch, qui est une pratique dangereuse, il faut le rappeler, quoi. Mais si c'est pour faire des spots complètement cons, là, ça rime à rien. Et en plus, Cody, ce que je comprends pas, Cody, il est en tort aussi là-dessus, puisque Cody, déjà, il
bien
a
sûr
validé le chair shot au booking, et en plus, il met pas les mains.
Mais oui.
Il met pas les mains. Il prend la chaise pleine tête.
Non, mais donc c'est volontaire. Donc, voilà. Si c'est volontaire, c'est une énorme connerie. Et t'as une responsabilité quand t'es, parce qu'il est, en l'occurrence, il est booker, vice-président de mon cul et je sais pas quoi là de la OW. C'est censé être la révolution, machin. Si tu acceptes ça, tu as une responsabilité, je trouve, qui est énorme. Et voilà, moi, je trouve que ça dit beaucoup de choses. Ça raconte beaucoup de choses d'autoriser un spot comme ça.
Le seul truc, c'est que visiblement, ça n'a pas du tout enthousiasmé Tony Khan, le propriétaire de la IW. Hein.
Ouais, bah écoute, tant mieux. Mais en tout cas, voilà, c'est comme je ferai la même conclusion que pour les. C'est moins grave, évidemment, hein, mais le coup des insultes de MJF et tout ça. Encore une fois, on est sur un show, c'est leur deuxième show. Écoute, moi, je vais juste dire, attention, si c'est ça, ce sera sans moi. Enfin, clairement, c'est pas ce que j'ai envie de voir à la télé quand je regarde du catch. J'ai pas envie de voir des gamins sauter le dos le premier sur le tablier du ring pour potentiellement finir en chaise roulante à 22 ans. Et j'ai pas envie de voir des mecs s'envoyer des commotions cérébrales dans la tronche juste parce que c'est edgy et que la WWE ne le fait plus depuis des années. Il y a une raison, les gars, pour laquelle ils le font plus. Hein. C'est parce que c'est dangereux. Donc,
voilà. Je te rejoins de toute façon là-dessus. Je peux comprendre que ça puisse faire repousser pas mal de fans d'assister à ce genre de segment que j'ai trouvé totalement catastrophique. Et effectivement, tu as bien souligné aussi le coffin drop, là, qui était...
Ah ouais.
Qui était un des spots les plus débiles que j'ai vu sur les, je sais pas,
non,
les
mais,
dernières années.
Mais clairement. Moi, j'ai vu ça, là. Je l'ai vu sauter. J'ai détourné le regard de la télé. Vraiment, j'ai cru que le mec s'était défoncé parce que, enfin, faut quand même voir le spot. Et en effet, tu l'as bien dit tout à l'heure parce que, bon, là, on est un peu long sur ce match. Mais en même temps, je trouve que c'est assez important. Mais tu l'as bien dit tout à l'heure. Les catcheurs mettent déjà, c'est pas de la danse artistique, c'est pas du ballet. Hein, ils mettent déjà en jeu et leur santé en jeu pour nous divertir, mais ils le font dans un cadre avec des règles, des conventions, les risques sont maîtrisés, à la WWE, quand les mecs ils sautent des cages ou ils sautent des échelles, du titantron, des machins, les trucs, il y a plein de mousse, les accessoires sont gimmickés au possible, tout est fait pour limiter le risque le plus possible, parce que c'est déjà quelque chose, un sport qui est super dangereux. Donc de faire des trucs comme ça, mais moi, le Darby Allin, j'ai envie de dire, mais écoute, retourne dans ton garage, retourne dans tes gymnases avec les 10 mecs que ça fait triper de voir des trucs comme ça, mais ne viens pas à la télé, faire des conneries pareilles, parce que c'est, enfin, pour moi, c'est pas ça le catch, ça c'est juste, c'est un taré, voilà, et genre, c'est pas ça.
Voilà, va à la CZW.
Oui, voilà, va te marrer là-bas. Ouais, oui.
Voilà, ça sera très bien comme ça. Voilà, bon allez, on va passer à quelque chose un peu plus enthousiasmant.
Oui.
On a la reformation de The Elite qui va affronter dans un tag team match, dans un match trios en fait, comme on dit au Mexique.
Trios.
Puisque les adversaires, c'est trois Mexicains et puis pas n'importe quel Mexicain, mes amis, c'est les Lucha Brothers.
Oh non.
Junior et Phoenix et la Redo Kid. Et on a une petite surprise que moi j'ai trouvée personnellement très sympa, quoi, qui m'a rappelé le temps de ma jeunesse très 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 lointaine. Mais on a donc les Young Bucks qui sont arrivés en Street Fighter et pas.
Et ouais.
Ouais, ça c'était énorme, quoi. En fait, enfin d'ailleurs, Kenny Omega aussi lui est arrivé. Alors je sais plus quelle personne.
En Akuma.
Akuma.
Ouais. Akuma. Oui. Ouais, mais c'est parce que c'est pas un des persos des premiers Street Fighter, mais.
Ouais. Et Ryu et Ken pour
tout à fait.
Et donc alors là, bah écoute, moi alors là pour le coup j'ai trouvé ce match.
Toi ça devait être du caviar, toi.
Bah, moi c'était du caviar, hein, parce que c'était de la libre. Alors là, bah, avec les Lucha Brothers, de toute façon déjà on est assuré de toute façon d'un festival de lucha libre et on l'a eu. La Rocky, c'est un petit peu, mais je l'avais vu comme ça que dans des tag teams, etc. Donc là je l'ai revu dans une tag team. Il me fait penser un petit peu par moment, il a quelques similitudes avec Kalisto. Et moi, j'ai kiffé. Hein. Moi, j'ai kiffé le round one fight. Robert, et après, derrière, bah, c'est le spot fest qu'on attend. Quoi. Enfin, en tout cas, pour les gens qui aiment ce genre de catch, bah, voilà, on a eu droit à Canadian Destroyer, Spanish Fly, séquence de super kick party. Et on a eu, surtout, je pense, pour les puristes de Street Fighter, on a eu un triple Hadouken de The Elite. Ouais. Qui était quand même, ma foi, assez jouissif. Et Kenny Omega, quand il était, avant même qu'il arrive à la NJPW, je crois, je sais plus dans quelle fédération japonaise il était, à la Dragon Gate ou quelque chose comme ça. Et il utilisait le Hadouken comme finisher, Kenny Omega.
Ah, carrément.
Ouais. Et après, une fois qu'il est arrivé à la NJPW, il a un peu transformé son moveset, etc. Mais à ses tout débuts au Japon, il utilisait le Hadouken comme finisher. Et puis bah voilà, on a le droit à la totale, on a le droit au Meltzer Driver, on a vraiment un truc incroyable, quoi. Et le finish est énorme parce que Laredo Kid il tente, alors je sais pas s'il tente un espèce de moonsault ou c'est difficile à comprendre parce que du coup Kenny Omega le chope au vol et lui met un V-trigger en plein vol, un truc énorme. Et ouais. Il lance derrière avec le Tiger Diver et voilà, il obtient un compte de 2. Mais bon, voilà, Kenny Omega, il a plusieurs armes secrètes, lui, il a pas qu'un seul finisher. Et il termine du coup avec le One Winged Angel et il achève la Redo Kid et donc c'est la victoire de The Elite dans une ambiance de feu.
Ouais, ça on peut pas leur enlever, ça c'est sûr que c'était le feu. Hein.
Alors, Giscard, toi, la lucha.
Eh ben écoute, on va pas se mentir, c'était quand même assez sympa à suivre. Je suis pas très lucha, mais là je dois avouer que les Lucha Brothers et la Redo Kid. Bah, ils m'ont conquis un petit peu, hein. C'est vrai que c'était super fun. Alors moi, c'est vrai que j'ai beaucoup plus aimé la presta des Mexicains que la petite bande de Street Fighter. Moi, peu du mal avec les Young Bucks, perso. Et j'ai trouvé Kenny Omega assez sage dans ce match, donc c'est vrai que je les ai trouvés un petit peu plus en retrait. Mais les Lucha Bros et la Redo Kid, ouais, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Voilà, tu l'as dit, hein, tu as mieux cité que moi tous les moves qui sont passés. Je les connais pas tous, mais très très impressionnant. Écoute, c'était du showcase match dans les grandes largeurs. Hein, voilà, ils essayaient pas de nous raconter une belle histoire bien ficelée dans le ring. C'était du catch, de la folie, du rythme. Donc, écoute, c'est vrai que c'est assez fun à suivre. C'est pas forcément ce que je m'enfilerais. À haute dose, mais là, quand c'est bien fait, c'est bien fait. il a, bah, t'as dit, Kenny Omega, il a plusieurs cordes à son arc, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il use toujours, il use et abuse toujours un peu trop de son V-trigger, là. Bon, il l'a fait moins que d'habitude, parce que c'est souvent dans les 1 contre 1, il peut en sortir 6-7 par match. Bon, là, ça va, là, il est resté un peu plus modeste. Puis en plus, il en a fait un magnifique mid-air, là, j'ai trouvé ça super. Il y avait... Alors, du coup, tu as bien fait aussi de me dire quand même, parce que moi, je ne savais pas que le Fighter Fest, en fait, c'était un festival de jeux vidéo. Et c'est vrai que ça explique, du coup, beaucoup mieux maintenant tout ce match-là, parce que c'est vrai qu'au début, moi, j'avais un petit peu... je les avais vus arriver en costume de Street Fighter. Et puis, alors, quand ils ont fait leur Hadoken au centre du ring, je me suis mis... c'est facepalm un peu. Tu sais, je me suis tapé le front en mode, mais pff, qu'est-ce que c'est que ces geeks et tout, c'est quoi ce truc, ils se foutent de ma gueule, franchement. Et après, on vient nous emmerder à la WWE avec des trucs qui te sortent des matchs et qui pénalisent l'immersion ou je sais pas quoi. Et les gars, tu sortes un Hadouken et ils te cassent le kayfabe complètement. bon, bref, du coup, j'étais un petit peu sceptique sur ce truc-là. Bon, c'est vrai que maintenant que je sais qu'il y a tout un contexte et tout ça, je peux apprécier le clin d'œil et c'est vrai que c'est plutôt bon enfant, c'était cool quoi.
C'est même pire que ça, parce que le Fire Fest, en fait, c'est un festival de gamers, mais de gamers de jeux de combat.
Ah bah en plus, ouais, donc non mais bon, écoute, c'était bonne ambiance. Il y a un spot qui était un peu compliqué dans le match, je remets plus trop dessus, mais je sais qu'à un moment, je sais plus si c'est Matt ou si c'est Nick qui tient des Lucha Bros en position de pile driver à l'extérieur du ring pour faire un Meltzer driver là à l'extérieur du ring. Et là, tu sens que l'enchaînement est très 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 compliqué parce que ils sont pas timés pour venir contrer dans le ring et tout. Je sais pas si tu revois un petit peu la séquence, mais il y a eu un petit moment de flottement. Je crois que c'était vers le deuxième tiers du match. Mais bon. Oui. Globalement, on va dire que je pinaille, hein, parce que c'est vrai que c'était quand même assez, assez cool. Donc, moi qui suis pas trop ni Lucha, ni match un peu showcase qui raconte rien, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de storyline au final autour de ce truc-là, bah écoute, je dois avouer que je me suis quand même bien marré, c'était sympa.
Ouais, moi j'ai adoré.
Ouais, mais ça m'étonne pas.
Ouais, Pentagon Junior et Phoenix, je les suis depuis longtemps, quoi, tu vois. Là, d'ailleurs, je suis assez étonné parce que Phoenix, pour l'information, il est champion AAA. Il est champion Heavyweight AAA. Et étonnamment, il n'est pas dans le Triple Mania qui va se dérouler au mois d'août. J'en profite pour vous donner des infos sur le catch mexicain. C'est assez étonnant. C'est très surprenant, en fait, puisqu'il est avec son frangin. Il est avec Pentagon Junior. Ils auront un match tag team à Triple Mania. Mais c'est pas Phoenix qui est dans le main event de Triple Mania. Donc, c'est assez, assez surprenant, ça. Mais bon, moi, je me suis régalé, hein, clairement. Mais moi, si tu veux, sur les Young Bucks, tu as quelques réserves. Et moi, j'en ai aussi un petit peu, parce que moi, les Young Bucks, je les trouve très répétitifs. Par contre, je trouve que c'est des showman. Et du coup,
ouais, voilà, ouais, je suis d'accord.
S'ils sont répétitifs dans le ring, comme ils ont cette capacité à faire lever la foule et tout ça, du coup, ça contrebalance, je trouve. Alors que les Lucha Brothers, par contre, j'ai aucun doute là-dessus, quoi. C'est deux techniciens incroyables, tous les deux, quoi. Et puis, depuis qu'ils sont ensemble, enfin, voilà, depuis la TNA, etc., là, il faut voir que à la Lucha Underground, ils ne catchaient pas ensemble, quoi. Ils n'étaient pas mis en équipe, quoi. Ils se sont même affrontés plusieurs fois. Et du coup, pour moi, c'était que du bonheur ce match, quoi. Vraiment que du bonheur. Allez, et voilà, à notre main event, à notre unsanctioned match, qui donc voyait s'opposer John Moxley et Joey Janela. Alors, les amis de catch-up, je vais vous faire la même que pour d'autres combats, mais bon, John Moxley, tout le monde sait qui c'est, mais Joey Janela, pour le coup, moi, je ne connaissais pas.
Ouais, aucune idée.
Ouais. Ah ouais, moi non plus, je le découvrais. Je crois que je l'avais vu, en fait, une ou deux fois. À quelques occasions dans d'autres trucs indie, peut-être à la Raw, je sais pas où je l'avais vu en fait. Et alors sur le coup, en fait, ma grosse surprise, c'est que quand je l'ai vu arriver, je me rappelais pas qu'il ressemblait à rien. et j'ai dit, mais c'est lui, Joey Janela, c'est sûr là, c'est lui, c'est vraiment lui. Et puis bon, bah voilà, bah oui, effectivement, c'était vraiment lui. Et là, du coup, on est parti dans un match qui s'est transformé en hardcore match. Hein. Et alors là, bon, moi, je vais te laisser après, hein, mais je suis vraiment pas client de ça.
Ah ouais, non.
Alors, en main event, en plus, donc les barbelés, on a eu la totale, hein, on a eu les barbelés, les punaises, les tables, les chaises, la totale, quoi. Ils sont très, très vite sortis du ring et ils se sont mis joyeusement sur la tronche ringside. On a eu droit à pas mal de spots. On a eu droit à une échelle aussi sur le ring avec un gros spot de Joey Janela. Il faut le dire, vraiment un gros spot. Là, le spot.
Ouais, c'est vrai que c'était un gros spot. Ouais.
Ça, c'était assez énorme. Bon, après, moi, je suis toujours hyper inquiet, en fait, parce que même si on sait que les tables, les chaises, les barbelés, tout ce que vous voulez, on sait que c'est gimmické, quoi, plus ou moins. Moi, je trouve ça beaucoup, beaucoup trop dangereux, quoi. Et je trouve ça incroyable que des mecs comme ça se mettent autant en danger, quoi. On va peut-être vous paraître un peu petits joueurs, les auditeurs, mais que ça soit l'histoire de Cody ou l'histoire du main event, moi, dans les deux cas de figure, je suis pas client de ça. Voilà, si moi, je conseille aux gens qui nous écoutent, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, oui, vous en avez le droit à gueuler dans les commentaires, mais allez voir la CZW et puis voilà, on n'en parle plus, quoi. Mais moi, je vais pas à la AEW pour voir ce genre de match. Et même si c'est quelque chose que John Moxley porte en lui, parce que c'est ce qu'il faisait avant la WWE, bah moi, je suis pas rentré dans le combat, quoi, et j'étais même relativement pressé que ça se termine. Donc ça se termine, John Moxley gagne le match, après tout un spot de punaise et de DDT sur les punaises. Et finalement, bah, Kenny Omega vient chercher sa vengeance suite à Double or Nothing. Et il arrive en cavalant à toute barzingue sur le ring. Il attrape notre ami Moxley. Il lui met un V-trigger. Il lui met un pile driver sur une table. Et il lui met un double foot stomp. Donc comme ça, il lui met une bonne totale.
Rectifié,
ouais, direct, quoi. Je crois qu'après, il continue. D'ailleurs, il s'arrête pas là-dessus. Il lui balance des objets. Il chope une guitare. Il lui attaque dans le dos avec la guitare. Les arbitres essayent d'aider Moxley, mais ça se passe mal. Kenny Omega continue l'opération de destruction. Mais bon, finalement, ça se termine. Il se prend une poubelle, je crois, pour terminer, un peu en beauté. Omega qui revient attaquer avec une poubelle. Et il porte un DDT sur la poubelle. Voilà. Et ça se termine avec... Le pay-per-view se termine avec l'image de Moxley effondré au sol. Mais avec un grand sourire. Un grand sourire de chacal. Voilà.
Ouais. Ouais, parce qu'il a kiffé, ouais, je sais pas. Bon, écoute, non, bah, t'as tout dit, hein, je l'ai parcouru péniblement, ce match.
Combien de temps ?
Je l'ai parcouru péniblement, 20 minutes de torture pour le non-client absolu que je suis des matchs hardcore. Je pense qu'ils m'ont aidé à prendre conscience à quel point j'aimais pas ça, quand je les ai regardés. Mais en effet, voilà, tu t'as dit, c'est en fait pour moi c'est pas ma conception du catch, de voir deux mecs qui prennent tellement de risques pour quelque chose qui en plus visuellement n'est pas très c'est même pas plaisant, en fait c'est même pas très esthétique ou divertissant, je trouve, de voir finalement des mecs bouffer des barbelés et marcher sur des punaises. Ça me fait plus donner envie de finalement de changer de chaîne qu'autre chose, donc c'est pas très positif comme sentiment, mais déjà que j'avais failli, quand je disais j'avais failli couper le pay-per-view après le coup de chaise sur Cody, enfin même tout le match, hein, Cody Darby Allin, c'est vrai que là, quand j'ai vu le main event après derrière, je me suis dit, bah putain, j'ai été bien courageux quand même de regarder tout ça. Donc non, j'ai pas du tout aimé ce match, mais parce que c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, voilà. Après, au-delà de ça, même si c'est pas pour moi, franchement, je me questionne sur la qualité de ce genre de match. J'attends peut-être en commentaire, n'hésitez pas, en effet, comme l'a dit Chris, il a raison, venez, si vous êtes client des matchs hardcore, venez nous expliquer peut-être ce que vous kiffez là-dedans. Moi, j'ai du mal à voir ça. Donc du coup, ça m'a un petit peu sorti du truc. En plus, c'est très compliqué, je trouve, de proposer ça en main event d'un show de catch qui, encore une fois, voilà, se veut quand même fédération assez qui se veut potentielle alternative à la WWE. Donc c'est un show qui est censé essayer de fédérer potentiellement un nouveau public, parce que leur public de fans hardcore de Smart, ils l'ont déjà. Donc finalement, je me questionne aussi un petit peu sur la stratégie de la AEW, finalement, de positionner ce type de match en main event. Est-ce que c'est vraiment leur meilleur argument commercial ? J'en suis pas convaincu. Et puis, bah, écoute, voilà, ça s'est fini sur une note un peu compliquée, parce que là, vraiment, quand il lui a remis la tronche dans les punaises, j'en avais vraiment marre, là. Et heureusement, on va dire, heureusement qu'il y a eu ce petit truc après. Alors, j'ai beaucoup aimé l'attaque de Kenny Omega, là, la vengeance de Kenny Omega. Je trouvais qu'elle était agressive, elle était vicieuse, elle était bien focus et tout. Je trouvais que c'était, voilà, en tout cas, c'était une belle touche pour finir ce pay-per-view qui était assez pénible pour moi. Et puis, un petit peu de build-up, un petit peu de storyline, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué encore la EW à suivre quand on a l'habitude de la WWE. Bien polissé, on va dire, dans son fonctionnement avec des storylines, des weekly. Voilà, les histoires sont tracées. Là, c'est vrai que là, à part si vous suivez un petit peu sur YouTube les Road to Double or Nothing, Road to Fighter Fest, il n'y a pas trop de build-up. Donc là, ça faisait plaisir d'avoir quelque chose de plus WWE un petit peu, quoi, avec ce final. J'ai trouvé que c'était très WWE comme fin de pay-per-view. Donc ça m'a plus mis à mon aise.
Ouais, tu t'es retrouvé un peu, t'as retrouvé tes marques.
C'est ça.
ouais, écoute, ouais, de toute façon, je te rejoins sur pas mal de choses. Moi voilà, vous n'avez pas de chance, les amis, mais là, vous n'avez pas trouvé deux fans pour des matchs hardcore.
Non.
De ce niveau-là, moi non plus, c'est pas du tout ma cam. Et du coup, bah, ça m'a fait terminer le pay-per-view un peu sur une presque une mauvaise note, mais effectivement, il y a cette arrivée d'Omega, et puis que, ouais, et du coup, ça tease un peu ce qui va se passer sur la suite de cet été. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Oh, voilà, on l'a fait, ce main event.
Bah ouais.
Sans et dans les punaises, mais on l'a fait. Alors, mon bon Giscal, dis-moi tout. Ton top, ton flop et ta note.
Ah, ça va pas être Jojo, hein. Alors, mon flop, je pense que vous l'aurez compris, hein, mais c'est spécifiquement le Cody Rhodes Darby Allin, que ce soit le match ou le coup de chaise derrière. Je trouve que c'est scandaleux. De mettre ça à la télé de nos jours. Et plus globalement, c'est un flop un peu quand même pour l'AEW et pour le message que renvoie ce deuxième pay-per-view, qui est quand même un pay-per-view dans lequel ils ont promu de la violence complètement unsafe, pas protégée, de la vulgarité. Et c'est vraiment un pay-per-view. Alors voilà, il y en a beaucoup qui... J'ai déjà débattu un petit peu sur ce pay-per-view avec des gens depuis qu'il est passé. Et certains ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent qu'on ne peut pas juger une fédération sur deux émissions. La WWE a déjà fait des conneries par le passé. C'est vrai que l'exemple de SummerSlam 2017, je crois, avec Randy Orton et Brock Lesnar et les coups de legit qui avaient causé une commotion à Randy Orton reviennent souvent. Écoutez, c'est pas parce que, enfin ça me fait penser à ceux qui défendent leur cigarette, à dire ouais, mais bon, il y a pire, enfin c'est pas parce qu'il y a pire à côté ou qu'il y a eu il y a des mauvais exemples à côté que ce que vous faites c'est bien. C'était de la merde aussi à l'époque ce qu'ils avaient fait, et là c'est de la merde ce qu'ils ont fait ce dimanche, donc ça change pas trop. Et donc oui, on peut pas juger une fédé après deux shows, non on peut pas. Certes, mais bon, en tout cas, pour l'instant, il n'y a eu que deux shows. Donc, on est un petit peu obligé aussi de se fier aux messages et aux signaux qu'envoie la EW sur son potentiel futur produit et sur son potentiel positionnement vis-à-vis de la WWE. Et ben moi, par ce Cody Rhodes Darby Allin, par cette promo, par ce main event, ben pour moi, la EW a envoyé un signal assez fort qui me repousse, moi, de ce qu'ils peuvent faire dans le futur. Donc, voilà, un flop spécifique, mais qui est quand même un peu plus global sur le message qui donne. Et puis, bah, mon top, écoute, je le répète, je vais le donner aux filles, Nyla Rose. En tout cas, je trouvais qu'elles avaient fait un super boulot et qu'elles ont vraiment bien tiré leur épingle du jeu, beaucoup plus que les deux matchs de catch féminin qu'il y a eu il y a un mois. Je trouvais que c'était très intéressant ce qu'elles ont fait et elles m'ont donné envie d'en voir plus. Et c'est vraiment pas gagné me connaissant, donc un top pour elle. Et ma note, écoute, j'avais noté 1,5 pour ce show. Ça va peut-être paraître sévère pour beaucoup parce qu'il y en a certains, voilà, ils kiffent les spotfest et ils kiffent la violence et tout ça. Moi globalement j'ai trouvé que l'émission, au-delà de client pas client, j'ai trouvé que l'émission était quand même assez faible par rapport à Double or Nothing. C'était moins bien produit, j'ai trouvé. Les matchs, globalement, étaient de moins bonne qualité dans la top card, à part le 3v3 dont on a parlé, la lucha libre contre les Young Bucks, enfin The Elite. Je trouvais que l'up card, en tout cas, était beaucoup plus faible que à Double or Nothing. et que globalement, voilà, y a eu trop d'horribles choses pour que je prenne du plaisir. Donc, j'ai vraiment pas du tout aimé ce pay-per-view.
D'accord. 1,5.
Ouais.
C'est ça ? T'as dit 1,5. Ok. Ouais, effectivement, ouais, effectivement. Eh ben, écoute, moi, mon flop, en fait, il aurait tendance à... Après tout ce que tu as dit sur la gestion de la IW, là, sur ce deuxième pay-per-view, moi, je vais quand même le donner spécifiquement au match Cody-Darby Allin pour une raison finalement assez simple, c'est que je ne comprends pas Cody Rhodes dans cette histoire. Pour moi, Cody Rhodes, il a des responsabilités importantes là, de booking, de vice-présidence, même si c'est plus ou moins kayfabe, mais dans tous les cas de figure. Et je ne comprends pas une seule seconde qu'il ait pu accepter un booking pareil sur ce match. Je vraiment, ça me dépasse. Pour moi, Cody Rhodes, c'est un professionnel, c'est un mec qui est né dans le milieu du catch, qui vit dans le milieu du catch, qui connaît tout sur le bout des ongles. Et c'est justement parce qu'il est censé tout connaître sur le bout des ongles que je lui pardonne pas trop ce qui s'est passé sur ce combat, quoi. J'ai trouvé ça vraiment, j'ai vraiment été choqué. Et c'est rare que, bah, comme toi, à un moment, mais c'est rare que ça m'arrive quand je suis du catch. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, je vais couper, quoi. Et
bah ouais. Que,
suite est comme ça. Mais en fait, si tu veux, comme j'avais l'attraction du match de The Elite, The Brothers, je me suis dit, ah non, quand même, je vais continuer quand même, quoi. Surtout que c'était le match qui suivait derrière. Mais écoute, dans d'autres circonstances, ça aurait été par exemple le main event ou ça aurait été l'avant-dernier match, etc. Sachant que c'était un hardcore match qui finissait le pay-per-view, ça aurait été possible que je coupe.
Ouais. Bon, ça ouais, je suis assez d'accord. Si ça avait été le hardcore match dans la foulée, je pense que j'aurais stoppé.
Je pense que j'aurais stoppé aussi et on serait peut-être pas là en train de reviewer ou que oui, effectivement, j'aurais pas été au bout. Parce que vraiment, je lui donne mon flop et vraiment, je suis vraiment déçu par Cody Rhodes sur ce coup-là. Vraiment, vraiment déçu. Comme tu l'as dit, le jeune Darby Allin, s'il veut mourir à 22 ans, bah...
Ouais, voilà, qu'il le fasse, mais loin de nos écrans, quoi. Ouais.
Qu'il le fasse dans un garage, comme tu l'as très bien dit, ou dans un jardin, sur un trampoline, mais qu'il vienne pas sur un ring de catch professionnel pour nous faire ce genre de choses. Donc voilà, donc mon flop va à ce fameux match Cody-Darby Allin. Et à Sean Spears aussi, par la même occasion, puisque c'est quand même lui, au final, qui a mis le coup de chaise, quoi.
Ouais.
Et sur la tête. Mais bon, lui, on l'avait booké, on lui avait dit, tu mets le coup de chaise sur la tête. Je suis désolé, hein. Donc je pense que là-dessus, il y a pas de, il y a pas photo là-dessus. Quoi. Et donc ça, c'est mon flop. Et donc mon top, bah, sans surprise, hein, les amis, vous l'avez bien compris, il va aller au match tag team trios entre Lucha Brothers et The Elite avec la Redo Kid accompagnant les Lucha Brothers. Moi, j'ai trouvé ça totalement énorme. J'étais debout pendant ce match. Ah, c'était énorme. Continuez, les amis, fight forever. C'était vraiment, moi, c'est ce genre de combat, ça me transporte, quoi. Là, j'ai vraiment, comment ils disent, les Américains, athléticisme, je crois que c'est ça.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ils utilisent, quoi, qui est difficilement traduisible en français, je trouve.
Ouais, à part faire un gros barbarisme en disant pas de l'athléticité, mais ça ne se dit pas. Voilà. Donc, c'est vrai que je ne sais pas trop, ouais.
Là, dans ce match-là, c'était énorme, avec des choses. Il y avait un. Avec les showman des Young Bucks, Kenny Omega qui est quand même l'une des trois grosses stars de la IW, les Lucha Brothers qui sont des gars installés partout dans le milieu indie depuis plusieurs années maintenant. Donc vraiment ce match m'a emballé, quoi. Et puis avec toutes les références à Street Fighter, tout ça, quoi. C'était vraiment, j'ai trouvé ça vraiment vraiment formidable, quoi. S'il y a un match que vous devez aller voir, les amis, dans ce pay-per-view, c'est bien ce match-là à mon goût. Voilà. Et ma note, je vais. Il y a quand même 2-3 matchs que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le Fatal 4-Way. J'ai beaucoup aimé le Triple Threat. J'ai beaucoup aimé le tout premier match du pré-show. Donc, je vais pas leur mettre la moyenne parce que je sais pas. Il y a plein de choses qu'on a vues dans ce pay-per-view qui, je considère, de mon point de vue, ne sont pas acceptables. Donc, ils n'auront pas la moyenne. Mais je vais leur. Heureusement, il y a eu 3-4 matchs qu'ont bien donné. Donc, je vais mettre un 2,25.
Ok.
Voilà, je vais mettre un 2,25 sur ce deuxième pay-per-view de la. AEW. Voilà. Bah, au final, on aura mis des notes faibles. Hein.
Oui.
Si on compare avec Double or Nothing il y a un mois ou un mois et demi, ça n'a rien à voir. Hein. On est passé.
Ah
à...
oui, clairement. Ouais. J'avais beaucoup aimé Double or Nothing. Et là, ça m'a mis un petit coup derrière la tête. Hein. Je vous avoue que là, le prochain, je ne sais pas ce que c'est le prochain pay-per-view de la AEW, mais je regarderai quand même parce que voilà, je ne peux pas m'arrêter à deux émissions, mais là, ils ont pris un gros carton jaune, voire bien orange, là. Et je, enfin, je m'obstinerai pas. Finalement, voilà, c'est ça un peu la conclusion, c'est que je m'obstinerai pas dans cette fédé. Moi, personnellement, venant du monde de la WWE, du catch un peu mainstream, hein, je suis plutôt un fan casual. Et je me dis, voilà, je m'obstinerai pas là-dedans si s'il continue à proposer des trucs comme ça, quoi. C'est pas mon truc.
Ouais, je peux. Mais moi, je comprends tout à fait ça. Hein. C'est ça, si tu veux. Alors après, moi, là où je mets un bémol, c'est que je pense que ce produit n'aura rien à voir une fois qu'il va passer à la télévision. Écoute, j'ai lu pas mal de trucs sur un peu les, on va dire, les responsables de la AEW, un peu du ressenti après pay-per-view. Il s'avère que le patron n'était pas du tout content de ce qui s'était passé de Kobe, Darby Allin. Qu'il a dit textuellement qu'on ne verrait jamais ça à la télé. Donc écoute, moi je vais leur donner leur chance. J'attends All Out en août, on verra bien un peu ce que ça va donner. Je reste assez circonspect sur ce deuxième pay-per-view, mais je vais attendre le prochain pay-per-view.
Oui.
Je vais surtout attendre l'arrivée à la télé.
Ouais, je pense aussi. Ouais.
Je pense que ça va être le moment, tu vois, ça va être le moment charnière, quoi. C'est là en octobre quand ils vont être installés, qu'ils vont avoir un weekly. Là, on va pouvoir voir on peut vraiment parler honnêtement de concurrence avec la WWE, chose sur laquelle je ne m'aventurerai pas à l'heure actuelle.
Non, moi, pas du tout, mais oui.
Si tu veux, pour moi, à l'heure actuelle, on ne peut pas comparer la AEW et la WWE. Je pense que là, on n'est pas dans le même monde à l'heure actuelle. En tout cas, certainement pas sur ce qu'on a vu sur ce deuxième pay-per-view.
Non, ça, c'est sûr.
Voilà. Et ben voilà.
Et ben alors.
On est arrivé au bout. Alors, il faut faire plein de pubs, les amis.
Donc, oui.
C'est vrai qu'on est disponible partout, en fait, sur le Républicain Lorrain, sur le Parisien, sur Spotify, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur les cahiers du catch. Nous sommes partout.
Et oui,
c'est ça la force. Alors, il faut nous mettre des likes, il faut nous mettre des pouces en l'air, il faut nous mettre des pouces en bas aussi, hein, parce que l'indifférence, c'est ça qui tue. Hein.
Donc, et oui. Vous n'êtes pas content, si vous nous avez trouvé trop prude, je ne sais pas, peut-être, hein, vous trouvez qu'on est trop sévère, venez nous le dire et vous pouce vers le bas, et puis on en discutera.
Il faut vous plaindre. Et si vous nous aimez, c'est tant mieux, mais s'il faut vous plaindre, il faut le faire, n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Donc voilà, donc vous pouvez nous retrouver partout, vous retrouverez la review de Raw cette semaine, la review de SmackDown, voilà, comme d'habitude, vous êtes habitués hein, au mode opératoire de l'équipe de catch-up. Donc voilà, bah écoute, Giska, j'ai été ravi de faire cette review indie avec toi.
Bah oui, écoute, j'étais ravi de m'aventurer dans ces terres et qui plus est avec toi, c'était très agréable en effet.
Formidable, impeccable. Et ben voilà, on y est. Et ben, salut les smarts, tel qu'il se dit dans ce studio. Moi je vous dis salut peuple de catch-up et puis Giscal, des bisous.
Allez, toi aussi. Et puis bisous à tout le monde, à tous nos auditeurs, ciao.